Lizzie présente Ce qui ne tue pas de Rachel Abbott. Lue par Sophie Frison. Prologue. 1. Ça se termine comme ça. J'ai compris à présent. C'est toi ou moi. Certaines morts sont inéluctables. D'autres peuvent être évitées. Puis il y a ces tragédies prises dans leur propre élan qui, une fois lancées, s'emballent et causent mal après mal, perte après perte. Oui, il est temps d'en finir. 2. La voiture était enfin redevenue silencieuse. Stéphanie était parvenue à clouer le bec de Jason en le menaçant de s'arrêter sur le bord de la route et de le jeter dehors s'il n'arrêtait pas de jacasser. Il n'aurait qu'à rentrer au poste à pied. L'ambiance était pesante et ses mains se crispaient sur le volant. Elle entr'ouvrit sa vitre pour laisser s'échapper la chaleur et inspira une bouffée de brise marine imprégnée de l'odeur subtile des vagues qui s'écrasaient sur les rochers en contrebas. Détends-toi, ce ne sera pas comme la dernière fois. La voix de Jason interrompit ses pensées.
Vous croyez qu'on a affaire à une dispute conjugale, sergent ? Le quartier est trop huppé pour ça, non ? En tout cas, c'est pas l'argent qui doit poser problème, c'est clair.
Jason croisa les bras comme s'il avait tout dit, et elle fut tentée de lui demander s'il avait écouté quoi que ce soit lors de sa formation. Elle détestait se coltiner les bisus, en particulier ceux qui donnaient leur avis sans être suffisamment informés. Le 999 a reçu l'appel d'une femme qui criait à l'aide, c'est tout ce qu'on sait. La communication a été coupée. À en croire la société de surveillance qui gère la maison, elle est aussi barricadée que Fort Knox. Une intrusion est donc peu probable. Stéphanie comprenait parfaitement ce que ça impliquait. Leur victime connaissait la personne qui la menaçait.
La voiture de patrouille est déjà sur place. Leur homme attend pour nous faire entrer. On sera fixé bien assez tôt.
Trop tôt. Elle n'était pas sûre de vouloir savoir. Le gravier du chemin crissa sous les pneus. Les nuages se dissipèrent et la pleine lune éclaira les arbustes alignés le long d'une allée étroite. Après le virage, elle vit apparaître un long mur blanc, haut de 6 mètres, percé en son centre d'une large double porte en bois.
« Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»
s'étonna Jason, baissant la voix à cet étrange tableau. « C'est le mur arrière de la maison. »«
Il n'y a aucune fenêtre. Pourquoi construire une maison sans fenêtre ?»«
Attends de voir l'intérieur. » Elle sentit son regard sur elle. « Vous êtes déjà entrée ?» Elle acquiesça. Elle ne voulait pas se remémorer la dernière fois qu'elle avait dû venir ici. Elle espérait de tout son cœur que l'histoire n'allait pas se répéter. Mais un appel à l'aide n'était jamais bon signe, et malgré ses qualités esthétiques, la maison lui donnait froid dans le dos. Elle se gara à côté d'un véhicule au flanc orné du sigle de la société de surveillance. Un jeune homme mince, couvert d'acné, en bondit.
« C'est pas vrai !»
songea-t-elle. 2 bébés pour le prix d'1. Sergent Stephanie King, annonça-t-elle. Vous avez la clé ? Le jeune homme acquiesça.
Je suis Gary Salter, de la société de surveillance.
On ne s'en serait pas douté. Vous avez essayé de sonner ? Demanda-t-elle. Gary regarda nerveusement à droite et à gauche.
Je ne savais pas si c'était une bonne idée.
Vous avez sans doute eu raison. On ignore complètement ce qu'il se passe à l'intérieur. Et seul, vous auriez été sans défense. Remontez dans la voiture, Gary. Jusqu'à ce qu'on ait éclairci la situation, on ne veut pas vous avoir dans les pattes. Stéphanie appuya fort sur la sonnette et s'approcha, à l'affût d'un mouvement à l'intérieur. Rien. Elle essaya une autre fois, au cas où, puis inséra la clé dans la serrure et la tourna. Gary ressortit brusquement de sa voiture.
« Il y a une alarme ?»
dit-il.
Le code, c'est 140-329.
Elle poussa la porte. Le boîtier de l'alarme se trouvait à l'intérieur du petit sas d'entrée, mais le système était désactivé. Elle entra, Jason sur ses talons. Le couloir était plongé dans le noir. Il n'y avait pas un bruit. Rien que le silence épais caractéristique des maisons parfaitement isolées. Lorsqu'elle appela, sa voix lui parut plate et morte. Un ray de lumière apparaissait dans l'entrebâillement d'une porte qu'elle savait mener au séjour.
une main sur le mur pour se guider, elle s'approcha.
« Il y a quelqu'un ? Police !»
Elle poussa la double porte au fond du couloir
et les ténèbres se dissipèrent aussitôt.
« Nom de Dieu !» s'exclama Jason. C'était peu dire. La vision la bouleversa autant que lors de sa précédente visite. Si le mur de façade du côté de l'entrée n'était percé d'aucune fenêtre, à l'arrière, une baie vitrée couvrait tout un pan de l'immense salle de séjour. L'éclat de la lune se reflétait sur la mer noire en contrebas et donnait l'illusion que la maison flottait au-dessus de l'océan. « Pas le temps de profiter du paysage, petit. »«
Hello !»
cria-t-elle encore.
« Police ! Il y a quelqu'un ?»
Pas un bruit. « Viens, Jason, allons explorer. » L'espace était conçu selon un plan complètement ouvert, avec une cuisine ultramoderne, une table à manger pour 20 personnes et un ensemble de canapés. Un nuage dissimula la lune et elle tendit le bras pour actionner l'interrupteur. Rien ne se produisit. « Merde !» murmura-t-elle. « Va chercher la lampe torche, émane-toi. Je descends vers les chambres, retrouve-moi là-bas. » Jason fit demi-tour vers la porte, tandis que Stéphanie s'approchait lentement du haut des marches, en se retenant fermement à la rampe. L'acier lisse était froid sous ses doigts.
« Police !»
cria-t-elle.
« Monsieur North, vous êtes là ?»
Sa voix manquait d'assurance. Tout ça à cause de ses souvenirs.
« Monsieur North !»
C'était une femme qui avait appelé, mais elle ne disposait que du nom de North qui, à sa connaissance, ne s'était pas remariée. La lune réapparut soudain, et avec elle, les reflets envoûtants des vagues noires. Elle se concentra sur l'escalier et empoigna sa matraque de sa main droite. L'autre main cramponnée à la rampe, elle descendit prudemment les degrés de verre. Il s'était passé quelque chose. Elle le sentait. Les chambres se trouvaient à l'étage inférieur, et au bout du couloir, un autre escalier menait au sous-sol. Elle ne voulait pas y remettre les pieds. Un bruit de piétinement la fit se retourner, et elle leva le bras pour se protéger de l'éclat aveuglant d'une lampe torche braquée sur elle.
« Désolé, sergent !»
Jason avait la voix légèrement éraillée. À cause de la peur ou de l'excitation, elle n'aurait pas su le dire. C'était sans doute pour le mieux. Stéphanie appela, brisant le silence. Elle se souvenait de l'emplacement de la chambre principale. Lors de sa dernière visite, elle avait trouvé la porte ouverte. North, assis sur le lit, la tête baissée et les épaules tremblantes. Doucement, elle poussa la porte du pied. La lampe torche était inutile. La baie vitrée laissait entrer le clair de lune et s'y ajoutait la lueur jaune et vacillante d'une douzaine de bougies soigneusement réparties dans la chambre.
« Nom de Dieu !»
Le chuchotement blasphématoire de Jason disait tout. Sur le lit, un amas de draps s'entortillait autour des bras et des jambes de deux personnes. Homme ou femme, elle était trop loin pour distinguer. Une odeur métallique confirma ce qu'elle voyait. Les deux corps gisaient, inertes, sur une literie trempée d'un sang sombre et épais. Malgré la chaleur de la nuit, un frisson parcourut sa nuque. Que s'était-il passé ici? Elle eut subitement envie de prendre ses jambes à son cou, d'abandonner derrière elle cette scène brutale. S'efforçant de se maîtriser, elle se tourna vers Jason pour lui demander calmement de remonter à l'étage et d'appeler des renforts. Pas besoin d'un miroir pour deviner que les yeux arrondis d'horreur de son collègue reflétaient les siens. Alors qu'il quittait la pièce, elle entendit un bruit qui la figea sur place. Les pleurs d'un tout petit enfant. Elle pivota vers la porte en essayant de distinguer la provenance du bruit. Elle devait trouver l'enfant. Mais il ne pleurait ni de douleur ni de détresse, et elle avait encore une chose à faire avant de quitter la chambre. Il fallait qu'elle s'avance vers le lit imbibé de sang, qu'elle touche les deux corps pour vérifier leur pouls, même si elle avait peu de doutes. Les éclaboussures sur le mur évoquaient une peinture abstraite insolite, et des traînées rouges visqueuses décoraient une photographie plus grande que nature suspendue au-dessus du couple. Le portrait en noir et blanc d'une jeune femme blonde.